France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face-à-Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, les manifs pro-palestiniennes sur les campus des universités américaines, tout comme à Sciences Po à Paris, les ont intéressés. Et puis pour le débat, nous entamons aujourd'hui notre mois européen. Chaque samedi, un grand intellectuel viendra nous livrer son regard sur notre continent, son dessin, son destin. Et pour la première, on reçoit un philologue, philosophe, qui dans son dernier livre nous embarque avec lui dans sa recherche de ce qu'il appelle l'esprit européen. Ça s'appelle « Lire entre les lignes sur les traces de l'esprit européen ». C'est chez Albin Michel. Heinz Wissmann sera avec nous, mais pour l'heure, c'est le duel.
Le grand face-à-face. Thomas Negarov sur France Inter.
Je ne les connais pas personnellement, donc c'est compliqué, on va voir qui c'est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de Révolution Permanente et de la France Insoumise. Ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et nous, on rompt avec ça. Enfin, c'est pas nos amis, ce ne sont pas nos camarades. Et ils font beaucoup de tort aux travailleurs et à la cause du progrès social.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
La semaine fut bonne?
Oui.
Rassurez-moi. Raphaël Glucksmann, on l'entendait, un tête de liste PS Place Publique pour les Européennes du 9 juin prochain, qui s'exprimait alors qu'il venait tout juste d'être insulté, objet de jets de peinture et finalement évincé du défilé du 1er mai à Saint-Etienne. S'en est suivi un débat très houleux sur les réseaux sociaux au sujet de l'identité politique des fauteurs de troubles. Les dirigeants de la France Insoumise ont accusé Glucksmann de mentir et de se victimiser à des fins politiques. Gilles, la gauche paraît plus divisée que jamais. Mais à un mois du scrutin, ça raconte quoi? Peut-être même sur la dynamique de la campagne de Glucksmann.
Oui, la gauche est divisée, tout simplement parce qu'elle est divisée sur l'Europe et qu'il y a des listes concurrentes pour un scrutin qui est un scrutin à la proportionnelle. Mais au-delà de ça, et au-delà de ce qui s'est passé à Saint-Etienne, et qui, je crois, est vraiment témoigne d'une brutalisation du débat public, une nouvelle fois qui est inacceptable, la source, en tout cas la source immédiate, c'est sans doute la percée de Raphaël Glucksmann dans les sondages et l'inquiétude que cela suscite, parce que ça fait maintenant des semaines que il y a une action sur les réseaux sociaux d'attaques qui sont concentrées contre lui. Et la percée de Raphaël Glucksmann jusqu'à il y a quelques semaines était timide. Là, elle est réelle. La Fondation Jean Jaurès a publié avec Le Monde, le Cevipof et l'Institut Montaigne sa quatrième vague du panel électoral en début de semaine. Et il y a une percée à la fois dans l'absolu, il passe en quelques semaines de 10,5 à 14%, et surtout en relatif. C'est-à-dire que il y a un mois et demi, il était proche de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Là, le trou est fait et il n'est pas très loin maintenant de la liste Renaissance. Si on essaye de comprendre ce qui est à l'origine de cette percée, ou en tout cas comment elle peut s'expliquer, on peut le faire en essayant de décrire la structure électorale de Raphaël Glucksmann. Et il y a deux choses qui me paraissent intéressantes, c'est qu'il retrouve une base sociologique. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les cadres, les salariés de la fonction publique,
les citadins, j'imagine.
Les citadins, mais il y a aussi, et c'est ça qui est nouveau et c'est ça qui explique, les classes moyennes, y compris les classes moyennes inférieures, les habitants des villes moyennes, les professions intermédiaires. Il y a encore pas beaucoup de jeunes, il y a encore peu d'ouvriers, mais ça, c'est un début de base sociologique. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il retrouve une base politique. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut dire, il y a eu des papiers qui expliquaient ça, que la progression de Raphaël Glucksmann s'explique pour partie par des électeurs qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022, et pour partie par des électeurs qui avaient voté Emmanuel Macron. Moi, je le dirais de manière différente. Dans tout électorat, vous avez un premier cercle qui sont les militants. Il y a un deuxième cercle, on peut appeler ça le noyau, qui sont les sympathisants, au sens des gens qui disent « le parti dont je suis le plus proche est le parti en question ». Et puis il y a un troisième cercle, disons, non pas le noyau, mais le halo des électeurs qui viennent pour une élection et puis qui reportent. Et puis, ben, généralement, c'est en fonction de l'importance de ce halo que le score est bon ou mauvais. Pour les socialistes, depuis maintenant près de 10 ans, la situation était différente. Ils étaient dans une situation singulière dans laquelle le noyau, les sympathisants socialistes n'étaient plus des électeurs socialistes. On n'avait jamais connu ça pour aucun parti, je crois dans aucun pays. Des gens qui continuaient à dire « le parti dont je suis le plus proche, c'est les socialistes », mais qui n'étaient pas des électeurs socialistes. Et je regardais en 2019, puisque nous avions le même panel électoral, 40% des sympathisants socialistes à l'époque votaient pour Raphaël Glucksmann. 40% seulement. Là, il y en a 90%. Ça veut dire qu'il y a à la fois... Ils votent plus, 10 points de plus de participation qu'il y a 5 ans, et ils votent plus pour Raphaël Glucksmann, on passe de 40 à 90%. Donc ces deux éléments-là, je crois, sont des éléments intéressants. Puis, si je peux terminer juste par un autre élément de compréhension, au-delà de la structure, c'est d'essayer de comprendre les motivations. Pour quelles raisons les électeurs aujourd'hui déclarent voter pour Raphaël Glucksmann, c'est beaucoup plus... que les autres pour les enjeux européens par rapport aux enjeux nationaux, et c'est moins que les autres par rapport au président de la République, que ce soit pour le soutenir ou que ce soit pour s'y opposer.
Voilà qui est très éclairant, merci pour ce panorama très complet de l'état de l'opinion au sujet de Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann que vous connaissez bien, Natacha, vous avez débattu avec lui pendant des années, oui. Ici même, au grand face-à-face. Est-ce que ça vous surprend, cette percée de la liste menée par Raphaël Glucksmann ?
Alors, ça ne me surprend pas parce que il y a, et c'est ce qu'a évoqué Gilles rapidement au début de son propos, il y a tout simplement un gouffre. C'est même plus un espace politique, c'est énorme, c'est devenu gigantesque pour permettre, j'allais dire, le retour de la social-démocratie dans sa version modernisée qui est portée par Raphaël Glucksmann. Dans la mesure où les électeurs de gauche, qui avait été tenté par Emmanuel Macron en 2017. Il faut se souvenir quand même que Emmanuel Macron avait été ministre de François Hollande. Il apparaissait malgré tout comme de gauche, même s'il n'avait jamais appartenu au Parti Socialiste. La dimension dans le « en même temps » de la jambe gauche en 2017 pouvait sembler à beaucoup tout à fait raisonnable, d'autant plus qu'il agrégeait, alors pas les... figure de proue du Parti Socialiste, on va dire les recalés du Parti Socialiste, que ce soit Richard Ferrand, Christophe Castaner, mais c'était tout de même des gens qui venaient de là, Jean-Yves Le Drian, Gérard Collomb.
Oui.
Donc il y avait cette essence-là. Elle s'est très rapidement dissipée totalement, laissant tout cet électorat, qui était un électorat qui adhérait à cette vieille idée de la deuxième gauche qu'il fallait embrasser le marché, la laissant orpheline et avec même le sentiment de s'être fait un peu avoir. Et autant ces électeurs-là, sur le plan économique, pouvaient accepter totalement une politique qui est une politique en fait... très libéral, autant, et d'ailleurs on l'a vu avec la réforme des retraites, ça n'a pas choqué plus que cela cet électorat-là. En revanche, la loi immigration les a choqués, parce que là c'est plus difficile de se dire dans le camp du bien, de se dire de gauche, quand on accepte cette loi. Et donc on a vu cette bascule, et en fait Raphaël Glucksmann arrive à ce moment-là, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ça n'avait pas marché suffisamment en 2019, mais que ça marche maintenant. Et ça marche maintenant aussi parce que de l'autre côté, ceux qui, parmi ces électeurs plutôt de tendance social-démocrate au sens large, avaient pu tout de même se dire « je tente le compromis Jean-Luc Mélenchon », c'est-à-dire que pour que la gauche soit au second tour d'une élection présidentielle, j'accepte la radicalité, le bruit et la fureur, ceux-là, depuis... Alors, ils avaient déjà été largement échaudés par tous les propos de Jean-Luc Mélenchon visant à... aller séduire un électorat de banlieue, depuis le 7 octobre, ceux-là ont basculé également. Et arrive Raphaël Glucksmann, c'est-à-dire, si on veut être taquin, c'est François Hollande et Lionel Jospin, mais moderne et cool. Et avec, malgré tout, une bien plus grande compréhension des enjeux européens, parce qu'il faut reconnaître à Raphaël Glucksmann d'avoir évolué sur ces questions-là. C'est-à-dire d'avoir adopté, mais de la même manière qu'Emmanuel Macron, le discours sur une Europe qui doit protéger, sur une Europe qui ne doit plus être naïve, etc.
La souveraineté européenne.
Voilà, c'est-à-dire c'est le même. De ce point de vue-là, il y a une grande proximité dans la mue vers quelque chose qui se veut prendre en compte les réalités de l'Union européenne. Malgré tout, l'ambiguïté est la même, c'est-à-dire que tous les sociaux-démocrates européens vote dans un sens qui va à l'encontre de ce que Raphaël Glucksmann défend. Et il faut se souvenir de l'excellent débat qu'il a eu avec François Ruffin par textes interposés, où là, c'est là en fait qu'il y a le cœur du débat que doit avoir la gauche, c'est-à-dire aller au bout des contradictions et essayer de résoudre cette question de savoir si, évidemment, il faut accepter cette échelle européenne, mais comment on fait évoluer cette Europe concrètement et pas seulement dans des vœux pieux.
Gilles, sur cet espace vide qu'aurait laissé à la fois Emmanuel Macron en glissant vers la droite et la gauche en glissant vers sa gauche, ce grand vide utilisé par comblé aujourd'hui par Raphaël Glucksmann, comment vous le regardez ça ?
Alors, qu'il y ait un espace politique qui se soit dégagé, qui se soit élargi ces dernières années, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, je crois qu'il n'y avait rien de mécanique à ce que ce soit Raphaël Glucksmann qui l'occupe. En 2019, c'est aux précédentes élections européennes, c'est Yannick Jadot oui. qui l'avait fait. Et on aurait pu avoir, de la même manière, les écologistes qui occupent cet espace-là. D'une certaine manière, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon avait réussi à faire en captant, y compris les voix d'une gauche modérée, à l'élection présidentielle. Donc je crois qu'il n'y avait rien de mécanique. Et si ça s'est fait, c'est parce que il y a eu une offre politique avec Raphaël Glucksmann, à la fois clairement à gauche et clairement pro-européenne, et une espèce d'incarnation avec non seulement de la sincérité, mais sans doute par rapport à 2019, davantage de puissance et de force. Dernier point, ça c'est sur ce qui s'est passé, sur là où on en est, qu'est-ce qui peut se passer ? En un mot, évidemment, c'est là où il faut être le plus prudent. Brice Teinturier, dans Le Monde de cette semaine, analysant la percée de Raphaël Glucksmann, disait qu'il fallait être prudent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'impensable n'est plus impossible. C'est-à-dire que, au stade où on en est, que Raphaël Glucksmann finisse deuxième et passe devant Renaissance n'est plus une hypothèse impossible. Alors que, il y a un mois, il y a deux mois, c'était totalement inenvisageable. Ça ne l'est plus quand il y a 3 points d'écart, quand la dynamique, quand on regarde les courbes, est ce qu'elle est. Il suffit, d'une certaine manière, pour Raphaël Glucksmann, de prendre un point, quand il y a 3 points d'écart, il suffit de prendre un point chez des écologistes qui se disent « il est pro-européen, il est écologiste, c'est pas exactement nous, mais on a la possibilité, la gauche a la possibilité de passer devant Macron ». Il suffit que quelques électeurs, un point d'électeurs de Renaissance aujourd'hui se disent ils rompent clairement avec la France insoumise, c'était ce que l'on voyait, et 1 plus 1, ça fait 3. Et oui, 1 plus 1, ça fait 3.
Oui, parce qu'on en perd un, on en gagne un, oui.
Exactement, bien vu. Et donc, dans cette hypothèse-là, c'est un petit tremblement de terre.
Et ça sera même un grand tremblement de terre pour 2027, si à gauche, le rapport de force
évolue. C'est un petit tremblement de terre immédiat pour Emmanuel Macron et pour la suite, pour la gauche.
Un mot.
On n'en est pas là.
Un mot, en effet, ça permet à tous ceux qui rêvent de voir se reconstituer le clivage gauche-droite d'y penser clairement, tout en montrant, regardez par exemple la une de Franc-Tireur sur Raphaël Glucksmann, ça montre que ceux qui avaient rejoint totalement le macronisme trouvent qu'ils sont parfaitement compatibles avec Raphaël Glucksmann.
Le grand face-à-face, le duel.
Les demandes de la communauté étudiante pour la Palestine sont claires. 1. La condamnation officielle du risque de génocide en cours à Gaza. 2. L'ouverture d'une commission d'enquête éthique sur les partenariats de Sciences Po avec les universités jouant un rôle direct ou indirect dans la violation des droits des Palestiniens à Gaza et dans les territoires occupés, notamment l'université de Tel Aviv, l'université hébraïque de Jérusalem, l'université Ben Gurion du Negev et l'université Reichmann. L'arrêt définitif, ça c'est la troisième demande, de toutes les sanctions et procédures disciplinaires contre les étudiants ayant mené des actions pacifiques pour la Palestine sur le campus.
On écoutait Hicham, étudiant pro-palestinien de Sciences Po, qui manifeste rue Saint-Guillaume avec beaucoup d'autres depuis plusieurs jours. Ils manifestent leur hostilité à l'égard d'Israël dans la guerre à Gaza. Natacha, les demandes des étudiants de Sciences Po qu'on vient d'entendre, et plus largement ce mouvement qui ne cesse de se diffuser un peu partout en Occident, avec comme épicentre les campus américains et colombiens en tête, comment regardez-vous ce mouvement, et en particulier ce qu'on vient d'entendre aussi, arrêtons-nous quand même sur les demandes des étudiants de Sciences Po.
Alors, sur les demandes de certains étudiants de Sciences Po, pas des étudiants de Sciences Po, et justement, je pense que c'est
pas
ce qu'il faut.
Pas de tout, mais voilà. De ceux qui sont devant et qui manifestent.
Oui, oui, non, mais je pense qu'il est important tout de même, quand on regarde ces mouvements, de bien comprendre que ça ne concerne pas la majorité des étudiants,
non,
que Sciences Po focalise beaucoup le regard, tout simplement, je pense, par la structure du système médiatique français qui fait que beaucoup de journalistes sont issus de Sciences Po. Mais si on regarde à l'échelle de la France, il y a des mouvements dans certaines universités, mais ça reste extrêmement minime, finalement, et ça n'est pas du tout à l'échelle de ce qui se passe aux États-Unis.
Oui.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Sciences Po a organisé le jeudi 2 mai un town hall.
Oui.
J'adore les expressions. Donc, en gros, une sorte de grande réunion qui a réuni 300 personnes. 300 personnes à l'échelle de Sciences Po, c'est très peu. Avec 12 personnes qui ont pris la parole, c'est très, très peu. Alors, town hall, là aussi, j'ai beaucoup aimé l'expression « ouvert à toutes les communautés de l'école ». Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème spécifique à Sciences Po. C'est tout de même l'adoption total de toutes les modes venues des États-Unis et même de la conception américaine de l'enseignement supérieur. Et il faudrait avoir le temps de revenir sur l'histoire de cette école et sur le rôle de Richard Descoings, notamment dans cette évolution. Pourquoi je prends ce préalable ? Parce que je me suis sincèrement posé la question de savoir s'il y avait une immense différence entre ces mouvements étudiants et le gauchisme qu'on pouvait voir dans les universités dans les années 1970, qui était extrêmement virulent, qui était largement sectaire. Est-ce que finalement il y a une différence de nature ou est-ce que la cause simplement a évolué ? Parce que ce qui me frappe, c'est évidemment l'obsession, le caractère obsessionnel de la cause palestinienne. Encore une fois, il est parfaitement légitime de manifester un soutien à ce que vivent les Palestiniens et je trouve que ça n'est pas assez répété et dit qu'il est parfaitement légitime et que ce n'est pas soutenir le Hamas et que tous les étudiants qui manifestent actuellement ne sont pas des soutiens du Hamas et qu'ils ne sont pas tous antisémites. Voilà. Non, mais ça nécessite d'être dit parce que c'est un préalable pour pouvoir débattre sereinement. Pour autant, je pense que l'obsession sur cette cause-là vient en fait du fait que c'est la cause parfaite, que c'est une cause où on peut trouver un coupable et un seul et se sentir du côté de la justice, du côté des faibles. Et ça colle parfaitement avec l'idéologie largement développée aux États-Unis et qui a infusé dans les facs françaises, à savoir la vision du monde uniquement focalisée sur une opposition entre dominant et dominé. Et je pense qu'il y a un réel problème de place des humanités classiques, des disciplines, dans l'université, qui explique que certains puissent, à ce point-là, simplifier les causes, et en particulier celles-là, qui mériteraient beaucoup plus de complexité et de nuances.
Gilles, mouvement minoritaire, mais qui, selon Natacha, traduit tout de même un état d'esprit un peu manichéen, qui traverserait notre jeunesse occidentale, qui manquerait peut-être de repères, et qui trouverait dans la cause palestinienne la grande cause qui permet de transcender leur clivage.
Alors, Natacha a évoqué deux sujets, en fait, le mouvement et l'école, Sciences Po. Sur le mouvement, quand on regarde les événements, il y a des choses qui sont compréhensibles, en tout cas que moi je trouve compréhensibles. L'indignation face à la tragédie que vivent les populations civiles de Gaza, l'indignation face au gouvernement Netanyahou, davantage encore devant les déclarations répétées du ministre des Finances Smotrich, c'est compréhensible. Il y a des choses qu'on peut considérer comme problématiques, l'instrumentalisation par des minorités ou l'occupation des locaux et de la rue, mais il faut quand même reconnaître que là, il n'y a rien d'extraordinaire, que c'est des choses qu'on a déjà vues mille fois. Et puis, il y a ce qui est inacceptable, je crois, pour partie quand ce mouvement se fait le relais consciemment ou inconsciemment de la propagande du Hamas en utilisant ces images ou ces slogans, ou lorsqu'il y a, pas dans le mouvement là, mais il y a quelques jours, des risques de dérive antisémite lorsque une étudiante juive n'a pas pu avoir accès aux locaux.
C'est toujours une enquête en cours.
Absolument, je vais y venir. Après, il y a les événements, il y a les réactions aux événements. Quand je regarde les réactions politiques, le plus emblématique étant la suspension immédiate de la subvention de la région. Il y a eu énormément de surréactions et d'instrumentalisation. Là encore, la période électorale n'y est sans doute pas pour rien. Et je trouve que la direction provisoire de Sciences Po, Jean Basser, a agi avec de manière adapté, équilibré. On entendait les réactions, les demandes tout à l'heure de Hicham, c'est-à-dire ouverture en suspendant seulement les procédures disciplinaires contre les étudiants qui avaient occupé l'escalier de la direction. C'est pas dramatique. En revanche, pas de suspension pour la procédure que vous évoquez pour de potentiels actes antisémites. Pas de suspension des coopérations académique avec les universités israéliennes et une tentative de sortie par le haut avec ce débat. Donc, ça, c'est pour les événements eux-mêmes. Un mot sur l'école et sur Sciences Po. Il y a eu, l'année dernière, un livre de Martial Foucault et de Anne Muxel, deux chercheurs du CVPOF, sur les étudiants de Sciences Po. Grande enquête, 20 ans après une précédente enquête qui permettait de prendre la mesure à quel point cette école n'était plus celle que beaucoup d'élites qui sont passées par Sciences Po avaient connue. Évidemment, l'internationalisation considérable, mais pas seulement l'internationalisation, beaucoup plus diversifiée d'un point de vue sociologique, c'est l'effet notamment des bourses, engagées de manière très différente, beaucoup moins dans des engagements politiques, beaucoup plus dans des engagements associatifs, plus radical politiquement et plus radical politiquement à gauche, parce que l'extrême droite, quand il y a eu une intention de vote, était totalement absente. Et je termine par là. Il y a eu un article d'Olivier Galland et de Gérard Grimbert dans Telos qui disait, en gros, on est passé de Marx à Bourdieu, de l'exploitation à la domination, de l'économie au sociétal, du militantisme politique au militantisme associatif. Et c'est une élite qui, par rapport à ses prédécesseuses, a le sentiment d'être une élite, beaucoup plus, mais le vit beaucoup plus douloureusement. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont faire de ça, l'aborder avec humilité ou avec intolérance? Et c'est un peu ça qui est en jeu, je crois, à Sciences Po aujourd'hui.
Le grand face-à-face. Le duel.
Nous sommes confiants et nous continuerons à nous battre pour vos droits devant les tribunes. Nous avons mis en place des mesures de protection qu'aucune autre entreprise n'a prises. Nous avons investi des milliards de dollars pour sécuriser vos données et préserver notre plateforme de toute manipulation extérieure.
Alors, il nous reste peu de temps pour revenir sur la dernière information, mais comme je sais que les utilisateurs de TikTok passent en général 7 à 10 secondes sur chaque poste du réseau, on va aller vite. On a écouté Chouchou, le patron de TikTok, qui répondait ainsi fin avril au vote par le Sénat des États-Unis d'un projet de loi visant à interdire donc TikTok dans le pays si la maison mère du réseau social préféré des ados, le géant chinois ByteDance, ne vendait ses actions dans un délai de 180 jours. La raison, la collecte des données par la Chine et l'espionnage via le réseau. Ces questions sont posées aussi en Europe et en France en particulier. Or, après-demain, lundi et mardi, Xi Jinping sera accueilli par Emmanuel Macron en grande pompe pour une visite d'État en France. Faut-il évoquer ou pas cette question de TikTok avec le président chinois, Natacha?
Alors, première remarque, ce qui est très intéressant, c'est la différence de point de vue entre les États-Unis et l'Union européenne sur les problèmes que pose TikTok. Les États-Unis, vous venez de le dire, ont axé leur attaque sur la protection des... D'ailleurs, le projet de loi s'appelle comme ça, protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers. C'est-à-dire qu'en gros, que Facebook, YouTube, Twitter utilisent les données des citoyens américains, ça ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est quand ce sont des Chinois. Alors que l'Union européenne a fait suspendre l'application TikTok Lite parce que, selon Thierry Breton, nos enfants ne sont pas des cobayes, et que c'est en fait sur la question du risque d'addiction que l'Union européenne attaque. Ce qui, à mon avis, pose le problème à sa juste mesure et qui permettrait ensuite d'attaquer les autres réseaux sociaux au nom de la préservation d'une certaine idée de la liberté, c'est-à-dire de la liberté de se construire sa propre liberté quand on est adolescents. Faut-il en parler à Xi Jinping ? Oui, mais au milieu de tout le reste. Parce que ce qui est en jeu actuellement, ça va être la défense de l'Union européenne face aux distorsions totales de concurrence que met en place la Chine. Je cite quelques exemples rapidement, mais le marché des dispositifs médicaux, le marché du photovoltaïque, le marché du ferroviaire, le marché des fabricants d'éoliennes, sur tous ces sujets essentiels, en fait, l'Union européenne est en train de s'apercevoir que la Chine ne respecte pas les règles. Il était temps. Le problème, c'est que nous voulons passer à la transition écologique de façon ultra rapide et qu'en passant de façon ultra rapide à la transition écologique, nous favorisons les entreprises chinoises, puisqu'elles ont détruit nos fabricants de photovoltaïques, d'éoliennes, etc. C'est ça qu'il faut régler, et c'est à mon avis le plus urgent pour préserver la liberté et l'indépendance des Européens.
Gilles ?
Alors, un mot sur TikTok. D'abord, commençons par un paradoxe. D'un point de vue commercial, c'est un succès spectaculaire, 1 milliard d'utilisateurs actifs tous les mois. Et d'un point de vue politique, c'est un problème planétaire. Il y a ce que vous avez évoqué, l'interdiction aux États-Unis, il y a les menaces dans l'Union européenne, mais il ne faut pas oublier que les voisins de la Chine, la quasi-totalité des voisins de la Chine, à un moment ou à un autre, de manière temporaire ou pas, ont interdit TikTok. Après, il faut prendre garde à un raisonnement que je crois un raisonnement simpliste. On a un problème avec la Chine, on a un problème avec les réseaux sociaux. TikTok est un réseau social chinois. En interdisant TikTok, on va résoudre les deux problèmes. Et donc, je crois qu'il faut distinguer ce qui relève de la Chine et ce qui relève du problème des réseaux sociaux en général. Les questions de souveraineté ou les questions d'influence étrangère, c'est un problème avec la Chine. Le président de la République peut en parler avec Xi Jinping, ça ne servira sans doute à rien. Et puis, il y a le problème, je termine par là, qui est l'enjeu sanitaire ou sociétal. Il y a un problème spécifique avec TikTok, au-delà même de l'application TikTok Lite qui visait à rémunérer le temps passé, c'est que la sophistication de l'algorithme de TikTok crée une addiction supérieure à celle des autres plateformes. Je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a après un problème général avec les écrans. Il y a eu un rapport qui a été remis cette semaine au président de la République avec des préconisations qui vont de l'interdiction pour les enfants de moins de 3 ans jusqu'à, je ne passe pas toute la gamme, un accès aux réseaux sociaux avant 15 ans. Ça mérite, je crois, un vrai débat, mais je suis sûr que nous y reviendrons une autre fois.
Avec plaisir.
Avec plaisir. TikTok détruit-il l'esprit européen ? Habile transition pour le débat du grand face-à-face.
Le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Heinz Wissmann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et merci d'inaugurer ce mois de l'Europe au cours duquel, dans le grand face-à-face, nous recevrons de grands intellectuels européens, c'est votre cas, pour se pencher sur notre histoire, nos valeurs, nos horizons. Vous êtes allemand, philologue, philosophe. Vous êtes né en 1935 à Berlin et vous prolongez votre réflexion sur l'Europe dans ce livre, Lire entre les lignes, sur les traces de l'esprit européen aux éditions Albin Michel. On va s'interroger ensemble sur ce que vous appelez l'esprit européen et notamment s'il est conciliable avec l'unité du continent, parce que pour vous, c'est la diversité qui caractérise d'abord notre Europe. Mais je reviens sur un élément de votre biographie. Vous êtes né en 1935 à Berlin, dans l'Allemagne donc nazie. En quoi est-ce que ça a pu déterminer votre itinéraire intellectuel et votre regard sur l'Europe ?
Pour ma génération qui a grandi dans les ruines, dans tout le sens du terme, laissée par le national-socialisme, il était inconcevable que notre avenir allait s'inscrire dans le cadre d'une nation. Et le fait que l'Allemagne soit divisée a contribué à façonner notre vision de l'Europe comme havre de paix. Et donc, je crois que le mouvement de mai 68, d'une certaine manière, a signifié en Allemagne la manifestation de la colère de cette génération qui en voulait à ses parents. En général, c'était vécu comme un conflit générationnel pour se libérer de cet héritage-là. Et le fait que je sois venu en France fait partie, sur le plan biographique, de cette révolte contre une certaine manière de se trouver assédié à résidence dans un héritage historique dont on voulait pas. Voilà, en gros.
Cette semaine, Emmanuel Macron, le président français, a donné une grande interview au magazine The Economist. Il a répété ce qu'il avait déjà dit à la Sorbonne la semaine dernière. On va écouter son discours, un extrait du discours de la Sorbonne. J'aimerais avoir votre réflexion sur ces mots employés par le président de la République française.
Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir.
Comment est-ce que le philosophe, l'amoureux de l'idée d'Europe, entend ces mots avec inquiétude? Ou vous balayez ça d'un revers de la main en expliquant que l'Europe, évidemment, n'est pas mortelle?
Ni. Non, l'Europe n'étant pas une réalité naturelle, mais une réalisation historique, eh bien, au cours des âges, elle meurt et elle revit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité absolue entre l'apparition de l'idée de l'Europe en Grèce ancienne et toutes les formes que peut prendre cette idée pendant des siècles. Ça fait quand même maintenant plus de 2000 ans que cette chose, je ne sais pas comment qualifier l'Europe, j'appelle ça plutôt une idée, s'est inscrite dans la réalité. Or, ces inscriptions dans la réalité ne sont jamais éternel, dans la mesure où c'est le témoignage d'un élan que j'appelle l'esprit européen, qui va chaque fois se donner une forme qui est périssable. Et on peut s'interroger sur l'Union européenne telle qu'elle vit actuellement. Est-ce que sous la forme sous laquelle elle existe, elle n'est pas périssable? Est-ce qu'elle ne doit pas inventer une manière d'être qui transcende l'actuelle façon de fonctionner? Ça, c'est le véritable sujet du débat, il me semble.
On va en discuter avec Gilles et Natacha, mais une dernière question. L'Europe est périssable, l'idée peut mourir, l'Europe peut aussi être enlevée. C'est le mythe d'Europe que vous rappelez à plusieurs reprises dans votre livre, raconté par Hérodote. Est-ce que vous pourriez nous le raconter et nous dire en quoi il est important pour comprendre l'idée et l'esprit européen jusqu'à aujourd'hui?
L'Europe, c'est une princesse phénicienne, c'est-à-dire elle vit avec ses sœurs Asie et Libye, Libye étant le nom donné à l'époque à l'Afrique, sur la côte ouest du continent asiatique, c'est dans le sud Liban. Elle est enlevée par Zeus, le dieu le plus important de la mythologie grecque, qui lui fait des enfants dans l'île de Crète, qui sont donc les premiers Européens. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que nous appelons l'Europe. C'est le geste d'enlèvement qui est décisif. Europe a été arrachée à son milieu naturel, sa famille. Elle est séparée de ses sœurs. Et donc c'est un geste, je prends un terme grec, critique. Et la séparation qu'incarne cette mythologie, qui ensuite chez Hésiode devient une réflexion sur le destin de la partie occidentale du monde face à la partie orientale. Et c'est très intéressant de suivre donc les différentes interprétations que les formes que prend cette Europe, qui s'appelle pas toujours Europe, adopte, parce que cette séparation, et c'est peut-être par là que ça prend tout son sens, n'est pas la séparation d'un ennemi au départ. Ce n'est pas la séparation qui permet de se barricader dans ses certitudes et de se défendre contre ce qu'on déteste. Non, c'est la séparation d'avec soi, puisque Europe est arrachée à tout ce qu'elle était, à savoir sa famille. Et cette séparation d'avec soi signifie ouverture à l'altérité. Signifie quelque chose qui est inexistant à l'époque sur le plan de la pensée, là où on cherche, par exemple, une ouverture sur d'autres civilisations, sur d'autres manières d'être. Eh bien, à chaque fois, on tombe sur l'Europe. L'Europe est la seule entité historique qui se soit intéressée aux autres. L'anthropologie est européenne. La colonisation est un avatar de cet intérêt pour les autres qui peut prendre la forme d'un intérêt condamnable, oui, évidemment. Mais cette ouverture-là, c'est la séparation de l'avec soi. Et donc, ma définition de l'esprit européen, c'est l'esprit critique, au sens étymologique du terme. Krinos en grec veut dire séparer, et la crise est provoquée par cette critique qui est une autocritique. Ce n'est pas la critique des autres. Et c'est là que le débat idiot à Sciences Po, même si c'est une sortie par le haut d'une crise, eh ben, il a tout faux. Parce que c'est juste l'affirmation des convictions des uns et des autres. Et à aucun moment, on entre réellement dans la perspective de l'autre.
C'est intéressant parce que ça me fait penser au mot que j'ai déjà utilisé ici de Jean Monnet, qui disait que l'Europe est née des crises et somme des réponses apportées à ces crises. Crise, critique, c'est effectivement la même étymologie. Gilles.
Bon, votre livre regroupe des décennies d'articles, d'entretiens, parfois certains sont courts, d'autres sont longs. C'est à la fois très simple d'accès et très érudit, très sérieux et parfois très drôle. Il y a même des histoires drôles qui m'ont fait beaucoup rire. Et c'est extraordinairement éclairant et passionnant. Je voudrais prolonger sur cette question de l'identité européenne, puisque ce livre est une espèce de kaléidoscope. On retrouve même, Thomas l'a dit, des choses à plusieurs reprises, mais parfois on prend plaisir même à relire des choses qu'on avait lues précédemment. Et donc, puisque c'est un kaléidoscope, à un moment, dans une des dernières parties, la partie qui s'appelle « Éclairage sur l'histoire européenne », vous expliquez qu'il faudrait... je ne sais pas si c'est au premier ou au second degré, mais qu'il faudrait réécrire ou écrire une histoire européenne, non pas à partir de nos victoires, mais à partir de nos défaites, pour se mettre à la place des autres Européens. Il y a une partie sur les stéréotypes, dans laquelle vous dites les stéréotypes, en fait, c'est intéressant si on en fait quelque chose, c'est-à-dire si on essaie de retrouver la narration qui est à l'origine de ces stéréotypes. Tout ça est-il en lien avec cette idée que la spécificité de l'identité européenne, c'est la séparation, ce que vous venez de dire? Est-ce que la séparation, c'est, on pourrait dire, penser contre soi-même?
Oui, c'est l'autocritique. Autocritique qui peut aller jusqu'à l'autodérision. Et dans les stéréotypes, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que les stéréotypes qui sont démontés par des blagues... Parce que les stéréotypes sont des manières d'asseoir une domination. Tandis que les blagues des dominés sont une manière réflexive de démonter les formes que prend la domination. C'est pour, les meilleures blagues sont juives, parce que les juifs sont dominés, sont même opprimés dans beaucoup de pays. Mais on a aussi des blagues en Union soviétique qui ont la même structure. C'est une autocritique qui s'ouvre sur un possible... qui est fermé par les certitudes. Et donc, étudier les stéréotypes est devenu une de mes petites passions, parce que dans les stéréotypes que les Français nous nourrissent à l'égard des Allemands, je suis vraiment sensible à ça, il y a beaucoup de choses que les Français devraient, dans l'autoréflexion, s'approprier, au lieu de projeter sur les Allemands une altérité qui les conforte dans leur identité. S'ouvrir sur la possibilité de l'autre est peut-être le geste européen le plus profond philosophiquement.
Natacha.
Quand j'étais étudiante en lettres, j'avais un professeur qui expliquait toujours qu'en allemand, « disonne » est féminin et qu'en allemand, « der Mond », la lune, est masculin. Et il disait, on ne pourra jamais traduire le poème de Lamartine, « Notre-Dame, la lune ». Il concluait en disant, on a fait 3 guerres pour essayer de régler ça, on n'a jamais réussi. Et ça rejoint totalement toute la partie de votre livre qui m'a absolument passionnée, de réflexion sur les langues, sur la différence des langues. Je suis frappée depuis des années, en effet, de voir la destruction progressive de l'apprentissage des langues, la diminution du nombre d'élèves qui apprennent l'allemand, et c'est la même chose dans les autres pays européens, vous insistez sur le fait que cette diversité des langues est au cœur de ce qui fait l'esprit européen et que l'ouverture à l'altérité passe par la connaissance des autres langues, mais ce qui est très intéressant, par un point de départ, l'apprentissage de sa propre langue comme langue d'héritage et non pas comme langue de communication. Je voudrais que vous développiez ça parce que c'est, à mon avis, quelque chose qui est en train de s'effacer de toute la culture européenne.
On avait Pierre Judé de la Combe qui était un de mes étudiants favoris.
On le salue, Pierre.
À l'époque, je crois que c'était Jacques Lang qui m'avait demandé de l'aider, quand il est ministre de l'Éducation nationale, à améliorer l'enseignement des langues étrangères en France. Et je lui ai dit, mais monsieur le ministre, on a accès aux langues étrangères au bon niveau de la pratique et de la compréhension, que si on maîtrise sa propre langue, suffisamment. Donc tout ce que je peux vous proposer, c'est un peu paradoxal, moi l'allemand, c'est d'améliorer l'enseignement du français en France. Et alors il m'a dit, mais expliquez-moi un peu pourquoi vous dites ça. Et alors je lui ai dit, mais prenez un môme de 16 ans qui tombe amoureux au collège d'une de ses camarades et qu'il n'y a pas les mots pour lui dire sa flamme. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Ben, il va finir par l'attraper par les cheveux et la suite, vous la devinez. Oh, me disait Jacques Lang, on m'a jamais parlé comme ça de la violence. Alors, je pense qu'il y a une violence absolument effroyable qui s'ajoute aux autres violences économiques, etc. C'est l'incapacité de dire ce que l'on ressent, de communiquer à autrui ce qu'on voudrait partager avec lui. Et donc, dans cette situation, on est, d'une certaine manière, ramené à un état sauvage. Enfin, l'idée que je défends, c'est que nos grandes langues de culture, parce qu'on avait, avec Pierre de Lacombe, on avait inventé l'opposition entre langue de service et langue de culture. Les langues de service rendent service. Ce sont toutes les langues techniques, les nomenclatures, juridiques, etc., qui permettent de produire un effet univoque de compréhension, alors que les langues de culture sont les langues où prolifèrent les métaphores et où il y a toujours un sens second, une possibilité de puiser dans le passé de la langue une dimension de sens qui correspond à une chose qu'on n'arrive pas à dire quand on est dans une langue de service. D'où la mauvaise humeur qui sointe à Bruxelles, des murs, parce que les gens... j'étais allé avec Umberto Eco voir le directeur de la direction éducation-culture pour lui dire, mais faites quelque chose, vous pouvez pas vivre dans un environnement linguistique aussi pauvre. L'anglais international étant de rigueur, par facilité. Et ben le type, c'était un Néerlandais, nous a dit, mais je suis désolé, mais je ne peux prendre aucune initiative si on n'a pas trois pays qui sont d'accord.
Mmh. Voilà. Et ils seront d'accord en anglais souvent.
En anglais.
Alors, toujours sur les langues, et c'est vrai que tous les articles et les interviews et les interventions sur les langues, tout ce paragraphe, ce passage-là est vraiment passionnant. Deux choses. Sur la langue maternelle qu'évoquait Natacha, et vous dites, pour commencer, d'abord, profondément, bien maîtriser sa langue maternelle, c'est quoi la distinction entre le dénotatif et le connotatif? Première question. Et puis, deuxième question, vous dites, pour apprendre une langue étrangère, en fait, paradoxe, la meilleure chose, c'est de commencer par une langue ancienne. Pourquoi?
Alors, le dénotatif et le connotatif, ça épouse l'opposition entre langue de service, qui est dénotative dans la mesure où elle ne fait que désigner une objectivité, quelle qu'elle soit, sans que le sujet parlant soit présent dans ce qu'il dit. Tandis que le connotatif, c'est le métaphorique, c'est quand je dis à quelqu'un « tu es un âne ». Sur le plan dénotatif, ça veut dire « tu es un animal gris avec de longues oreilles ». Sur le plan connotatif, ça veut dire « dans une langue de culture ou langue historique comme le français, t'es l'idiot ». Or, il y a plein d'expressions dans les différentes langues qui fonctionnent avec un volet connotatif. Et si on n'a pas accès à ce volet connotatif en apprenant cette langue, eh bien, on passe à côté du but même qu'on s'assigne en apprenant cette langue. Autant apprendre que l'anglais international. En espagnol, en italien, ça existe. J'étais à RFI et... j'ai posé la question du français simplifié en direction de l'Afrique. Ça rend service. C'est quelque chose d'important et en même temps quelque chose de contestable. Une réflexion en Europe, avec les Européens, avec leur tradition langagière, est indispensable pour voir si on ne peut pas dépasser cette espèce de réduction à la pure facticité objective des choses que l'on dénote.
Et sur les langues anciennes? Pourquoi commencer par les langues anciennes?
Mais les langues anciennes, c'est exactement ce que je l'entends par critique, esprit critique. C'est-à-dire, je me déprends de moi, du tac au tac habituel que j'entretiens quand je suis enfant, par exemple. Je trouve tout à fait normal que ça communique sans aucun problème, il n'y a pas de... Or, lorsqu'on apprend une langue qu'on n'est pas obligé de parler et qu'on ne peut à la limite pas parler, on prend soudain conscience que la langue qu'on parle sans y réfléchir mérite qu'on y réfléchisse, puisque s'ouvre soudain l'espace de l'altérité. Et moi, j'ai appris le grec et le latin au lycée en douleur, parce que ça me dépossédait d'une facilité dont je jouissais avec mes camarades. Mais une fois que je m'arrête là-dessus, une fois que j'avais compris que ça pouvait m'apporter un regard distancié sur quelque chose que autrement j'aurais même pas vu.
Parler une même langue simple, ça existe. Je sens que ça vous agace.
L'espéranto est une langue commune, équitable, précise et sans exception.
L'espéranto s'apprend 8 à 12 fois plus vite que les langues nationales.
Alors demandons que l'espéranto soit enseigné à tous les enfants européens.
Heinz Wissmann s'est pris la tête dans les mains. Qu'est-ce que vous reprochez? On sent bien ce que vous reprochez, mais l'espéranto pour vous c'est un cauchemar, c'est pas une utopie? Mais
c'est le choix du dénotatif pur.
Oui.
C'est une des difficultés, c'est une langue historique a une histoire. Et on ne peut pas fabriquer, hic et nunc, une histoire. Et donc l'espéranto, pour être productif, par exemple, pour faire fleurir les connotations qui permettent à des sujets de communiquer ce qu'ils ressentent au sujet de ceux dont ils parlent. Eh bien, l'espéranto a l'immense avantage d'être univoque quand on parle. Mais cet avantage va de pair avec un renoncement qui est beaucoup plus grave que tout ce que l'on peut espérer de cet avantage.
Natacha.
Je voudrais vous soumettre une petite réflexion qui me revient souvent. Quand a été rédigé le projet de traité constitutionnel européen, il y avait en exergue une petite phrase tirée de la guerre du Péloponnèse de Thucydide qui était « Nous appelons notre régime démocratie parce qu'il sert les intérêts du plus grand nombre et non pas les intérêts d'un petit nombre d'individus ». C'est extrait du discours aux morts de Périclès. Cette petite phrase a été retirée avant que le texte ne soit rendu public parce que les ministres des Affaires étrangères européens, si je ne me trompe pas, ont voté le retrait de cette exergue parce qu'ils considéraient que ce texte est prononcé par Périclès dans la guerre du Péloponnèse qui est un chef de guerre, que la démocratie athénienne ne comprenait pas les femmes ni les esclaves et que donc ça n'était pas un bon modèle. C'était la seule référence à un passé commun européen. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'y insiste parce qu'il y a une partie très intéressante aussi sur la crise grecque dans votre livre et comprendre la réaction des Allemands face à la crise grecque en fonction justement de leur rapport à la Grèce.
Heinz Wissmann.
Il y a deux choses différentes. Je commence à la seconde. C'est le rapport que les Allemands entretiennent avec l'idée de la dette. Parce que le problème que les Grecs posaient à la conscience universelle, c'est qu'ils étaient à la fois tricheurs et puis dépensiers, et puis ils étaient coupables de ce qui leur est arrivé. Or, la dette, du point de vue dénotatif, est quelque chose qu'on peut comprendre à travers toutes les langues. Mais la dette en français, du point de vue connotatif, ne comporte pas l'idée de culpabilité et de faute et de péché. Schuld en allemand, c'est ça. C'est la faute. Et donc, le protestantisme, qui est quand même une sorte de culture partagée et confessionnelle au départ, mais ça va bien au-delà, dans tous les pays du nord de l'Europe, eh ben, a entretenu à l'égard de la Grèce coupable une forme de ressentiment et le désir de punir les Grecs. Avec les yeux des Latins, qui sont majoritairement catholiques, et où les péchés véniels peuvent être pardonné grâce à un dispositif qui fonctionnait tous les samedis avant la messe du dimanche, on pouvait effacer les petits péchés. Et bien, dans un régime protestant où seule la grâce peut nous sauver et où il faut être impeccable, c'est si possible ne pas commettre de péché parce que ça se pardonne pas. Ben, on arrive à l'heure, on est un peu plus franc dans l'échange, la politesse est même reçue comme une forme de fausseté. Enfin, je pourrais être là très très long, j'abrège. Il y a là un phénomène qui va parfaitement dans le sens de ce qu'on a échangé tout à l'heure au sujet des langues de service et des langues de culture. Maintenant, j'ai perdu de vue la première question.
Sur la référence à Thucydide, dans le... c'est-à-dire la seule référence culturelle qui a été supprimée.
Mais là, il faut malheureusement que je fasse un tout petit détour, parce que Hérodote, qui invente Thucydide, a essayé de tirer du mythe d'Europe une explication de la guerre de Troie. Parce que Troie, c'est aussi sur le continent asiatique, c'est la côte ouest de la Turquie, de l'actuelle Turquie. Eh bien, Zeus a enlevé une princesse phénicienne asiatique pour l'amener en Crète. Eh bien, Paris enlève en... c'est une vendetta qui aurait pu se dérouler en Corse ou en Sicile il n'y a pas très longtemps. Et cette vendetta est l'origine, aux yeux d'Hérodote, des guerres qui vont se succéder entre les Grecs et les Perses, les guerres médiques. Et l'énigme, et là, c'est, je trouve ça absolument grandiose, l'énigme que Hésiode cherche à résoudre, est le fait que les Grecs gagnent contre des armées infiniment supérieures en 490 Marathon, en 480 Salamine, et Hérodote se dit, mais quelle est la raison de ces victoires qui sont donc en termes simplement de masse guerrière disponible, je pense à l'Ukraine actuellement et aux Russes. C'est incompréhensible. Et il dit, c'est une question de régime politique. C'est quand même grandiose. Il dit, les Grecs adoptent un régime politique qui admet la liberté de critiquer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, on se sépare en petites cités qui se font la guéguerre, etc. On s'oppose les uns aux autres sur le plan théorique en développant des philosophies différentes, etc. Et comme aux Jeux olympiques traditionnels en Grèce, il y a un moment de synergie qui est supérieur à ce que peut dégager un régime autocratique. Et c'est là que apparaît la notion de démocratie. Avant tout, si dit, les Grecs sont démocrates, non pas par idéalisme, mais parce que ça augmente la synergie. Et là, on a une leçon pour l'Europe, il me semble.
Ouais. Unis dans la diversité et la diversité qui peut nourrir la puissance. Ouais. Voilà.
Question très courte. Les Français et les Allemands. L'idée que les uns sont individualistes et les autres disciplinés, vous dites, c'est une méconnaissance des autres, mais c'est aussi une méconnaissance de soi-même. C'est-à-dire ?
Enfin, les Français qui disent qu'ils sont individualistes, le sont en un second temps, car ils sont d'abord conformistes. Et ce conformisme, c'est le respect des règles, le bon ton, le fait qu'on se plie à toutes sortes de manières d'être qui sont appelées civilisation, etc., permet ensuite la transgression. Alors, la transgression, c'est la bonne blague, le trait d'esprit. Quand les Français parlent d'esprit, ils parlent de tout à fait autre chose que les Allemands. Parce que c'est pas le pneuma qui gonfle la poitrine, c'est pas Hegel. L'esprit, c'est une bonne blague, c'est un mot qui fait bouche. C'est pour ça que le trait, c'est un tir à l'arc. Et donc, la transgression fait partie de l'individualisme français, mais qui est second par rapport à un conformisme, un respect des règles. Alors que les Allemands sont absolument sauvages à l'état naturel. Il suffit d'assister à un débat académique en Allemagne. On commence par dire, après l'exposé du collègue, alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ensuite, on développe des choses qui permettent un rapprochement. Ah. En France, on dit, je vous remercie beaucoup, j'ai énormément appris en vous écoutant, et puis hop, on sort le couteau pour... C'est ce qu'on appelle la résistance. C'est-à-dire reculer pour... Et les Allemands, pour finir avec ça, c'est quand même extraordinaire. Ils vont faire un effort colossal pour, non pas devenir individus, puisqu'ils le sont bien trop, mais pour se discipliner, pour se civiliser au sens étymologique du mot civilisation.
Mais vous racontez aussi que les deux langues étant très différentes, en allemand, on ne se coupe pas la parole parce que il faut entendre la phrase en entier pour avoir le verbe et pour comprendre ce qu'on veut dire, alors qu'en français, on peut se couper la parole très très vite, on le fait d'ailleurs parfois ici, parce qu'on sait très bien ce qu'on veut se dire au bout de 2-3 mots. Ça, ça change tout. J'ai une toute dernière petite question. Vous avez parlé du trait d'esprit et du tir à l'arc. J'aimerais qu'on parle d'un autre sport qui est votre passion et qui vous unit à Gilles d'ailleurs et aussi un peu à moi, c'est le tennis. Un mot là-dessus, vous y voyez beaucoup plus qu'un sport. Qu'est-ce que vous regardez quand vous voyez un match de tennis, vous, Heinz Wissmann ?
C'est un dialogue. Et dans ce dialogue, on ne peut être efficace que si on porte une attention soutenue à l'autre. Donc il faut déchiffrer le schéma corporel, parce que au tennis, ça va tellement vite que si on anticipe pas ce que l'autre va faire, et pour cela il faut le connaître, et à la limite il faut même l'apprécier. Si on le méprise, si on lui tourne le dos, etc., on ne peut pas réellement contrer ses coups. Et donc, pour moi, le tennis est d'une certaine manière l'incarnation sportive de ce dont je parle tout le temps, c'est-à-dire l'esprit critique. Je dois être séparé de moi, je dois être comme l'autre pour pouvoir le contrer.
Merci, merci infiniment. Et du coup, votre titre, Lire entre les lignes, on le voit un peu différemment, on voit un cours de tennis se dessiner. Merci beaucoup, Heinz Wissmann, d'avoir été avec nous. Lire entre les lignes sur les traces de l'esprit européen, c'est à lire chez Albin Michel. Merci infiniment, merci Gilles. Et merci Natacha, merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatt à la préparation de l'émission, Marie Merrier à sa réalisation. Et aujourd'hui, Théo de Lobadère était à la technique d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur l'appli Radio France et sur franceinter.fr.